France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Bernard Nathan, un génie du cinéma effacé de l'image. Ce capitaine d'industrie visionnaire, industriel, audacieux, reprend la firme Pathé en 1929 et lui donne un essor considérable. Il est le premier à investir massivement dans le cinéma parlant. Il développe un réseau de salles sur tout le territoire. Mais dans les années 30, il ne fait pas être bon être juif venu de Roumanie et réussir dans les affaires. Bernard Nathan, combattant de la Première Guerre mondiale sous l'uniforme français, décoré de la Croix de guerre et traîné plus bactère. Mis en cause pour une affaire financière mineure, harcelé par la presse antisémite, il est déchu de la nationalité française, condamné à la peine maximum, puis interné à Drancy au lendemain de sa libération, en 1942, pour être immédiatement envoyé à Auschwitz, dont il ne reviendra pas. Un homme à qui la France doit pourtant l'existence d'une industrie cinématographique vivante et pas entièrement dominée par les majors hollywoodiennes. Nos invités aujourd'hui, oui, elles sont deux. Dominique Missica, historienne et éditrice, qui vient de consacrer un livre à Bernard Nathan, et Lénique Le Guyader, petite-fille de Bernard Nathan. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
L'histoire de Bernard Nathan, c'est d'abord celle d'une ascension, d'une réussite formidable, qui, si elle était montrée au cinéma, ferait briller les yeux. C'est l'histoire d'un homme parti de rien, ou presque, habité d'une passion immodérée pour le cinéma, doté d'une imagination débordante et d'un amour jamais démenti pour une France vue, depuis sa Roumanie natale, comme le pays des droits de l'homme. De son enfance roumaine, on sait peu de choses. Il est né en 1886 à Iași, sous le nom de Naum Talanzaf. Ses parents tiennent une boutique de cristallerie dans l'une des plus jolies rues de la ville. La famille vit confortablement, sans ostentation, et Naum entame des études de chimie à l'université d'Iași. Mais dans ce tournant du XXe siècle, les Juifs ne sont pas à la fête dans l'Est de l'Europe. Voici ce que le journaliste et historien du cinéma Philippe Durand relate dans la biographie qu'il a consacrée à Nathan et intitulée « Le fantôme du cinéma français ».
Le 28 mai 1899, la communauté juive de Iași est attaquée par des hordes d'étudiants. Ils s'en prennent aux magasins et aux maisons juives. Ce déchaînement de violence est effectué sous l'œil placide de la police roumaine et fait 3 morts. Mais qui s'en soucie ? En avril 1903, à 150 km à l'est de Iași, de l'autre côté de la frontière, des émeutes antisémites déchirent la ville russe de Kichinev. Bilan, 49 tués. 2 ans plus tard, un deuxième pogrom a lieu dans cette même cité. Bilan, 19 morts, 56 blessés.
Ce sont peut-être ces événements qui poussent l'aîné de la famille Talanzaf à quitter Iași en 1906, direction Paris, qui est déjà la capitale du cinéma. À l'époque, la firme Pathé, créée 10 ans plus tôt par Charles Pathé et ses frères, a déjà fait briller son nom dans le monde entier. Depuis l'invention des frères Lumière et les premières projections publiques à la fin de 1895 au Grand Café à Paris, ce qu'on ne désignait pas encore comme le 7e art était déjà devenu une industrie. Confère cet extrait de l'Encyclopédia Universalis.
Le cinéma, c'est le théâtre, l'école et le journal de demain, déclarait Charles Pathé en 1901. Quelques années avant de créer un studio de tournage et une fabrique de pellicules, de lancer des actualités cinématographiques, mais aussi et surtout, de triompher sur le marché du cinéma de distraction. En 1908, Pathé est la plus grande firme cinématographique du monde, exportant vers de nombreux pays et détenant d'importants intérêts aux États-Unis. En France, Pathé constitue un circuit de salles présent dans toutes les régions. Bien qu'il n'ait guère participé aux innovations technologiques, Charles Pathé est le premier grand entrepreneur du cinéma de l'ère des pionniers.
Et c'est dans l'usine Pathé de Joinville-le-Pont où se fabriquent les pellicules que le jeune Naum, fort de ses connaissances en chimie, trouve rapidement un emploi. Il y reste peu de temps. Il devient projectionniste à Ménilmontant. Et c'est là qu'il rencontre Marie-Louise Chatillon. Elle est caissière dans le café-concert où lui s'occupe des projections. Elle est grande et bien charpentée. Il est petit et fluet. Elle a eu une éducation catholique, il est juif. Elle est provinciale, il est étranger. Mais qu'importe, il semble que ces deux-là soient choisis, se sont choisis par amour et par la même envie d'entreprendre et de s'élever dans la société. Ils se marient le 14 décembre 1909, un mariage civil et décidément anticonformiste. Marie-Louise, qui se fait désormais appeler Marcel, a 5 ans de plus que son mari. Et de fait, Nahum Tanenzaf entame son ascension dans le monde du cinéma. En 1909, il crée avec deux amis Ciné-Actualité. Les trois compères proposent aux exploitants des films courts, muets, évidemment, appelés l'illustration animée de la semaine. Mais la concurrence est rude face à Pathé Journal et à Gaumont Actualité qui aussi proposent ce service. Alors les trois jeunes gens s'engouffrent, comme d'autres, dans un créneau prometteur, celui des films coquins. Dominique Missica le relate ainsi dans l'affaire Bernard Nathan.
C'est l'âge d'or des maisons closes, où les spectacles de filles dénudées alternent avec la projection de films comme Le bain d'une mondaine, fourni par le catalogue Pathé, qui le présente comme un film grivois à caractère piquant, pour lequel il faut exclure les enfants des tableaux d'exhibition. Les tenanciers des cafés les proposent aussi à leurs clients dans leur arrière-salle ou leur sous-sol. Des hommes dégustent en paix ces scénettes muettes en buvant du champagne.
Que ce soit clair, on est loin de la pornographie. Mais le sénateur René Béranger, dit père la pudeur, mène alors campagne pour le respect des bonnes mœurs. Et voilà que la brigade des garnis, autrement dit la brigade des mœurs, arrête Nathan et ses associés. Inculpés d'outrage aux bonnes mœurs, ils sont condamnés. Les deux associés à 3 mois de prison, Nathan, lui, écope de 4 mois, ainsi que plus de 1000 francs d'amende pour chacun. Bon, cet accroc judiciaire devrait être vite oublié, pense le futur Bernard Nathan après tout. Il a payé sa dette, il peut repartir de zéro. Nous verrons qu'il n'en saura rien. En attendant, il replonge avec énergie dans le cinéma. Il crée Rapid Film avec Marcel, une entreprise spécialisée en travaux cinématographiques, comme on dit à l'époque. Puis Ciné Gazette, qui prend la suite de la Ciné Actualité pour proposer des actualités donc, et en tout genre aux exploitants. Exemple tiré de l'ouvrage de Dominique Missica, l'affaire Bernard Nathan.
Pour la semaine du 18 février 1913, Ciné Gazette, dont le slogan est « La vie par l'image animée », propose des reportages en tout genre. La vogue des premiers bains de mer, les revues de music hall de la capitale, les premiers exploits aéronautiques, les courses automobiles et parfois aussi les échos des catastrophes ou des guerres. Ciné Journal le souligne en février 1914. Jamais meilleures actualités n'avaient été filmées que par Ciné Gazette, dont M. Nathan, un de nos plus experts professionnels, assure la direction et soigne personnellement la mise en œuvre photographique.
Mais voilà la guerre. Nathan est étranger, n'est donc pas mobilisable. Mais il se sent français, il aime la France. Il s'engage. Il a alors 28 ans. Il passe les 2 premières années de guerre en première ligne, victime de l'épirite, le gaz moutarde employé par les Allemands. Il passe plusieurs mois à l'hôpital, reprend du service comme chauffeur du préfet de la Seine, puis à la section cinématographique de l'armée pour lutter contre la propagande allemande. En 1918, il renoue avec la vie civile, avec le grade de sergent et la croix de guerre. Autant d'honneurs qui lui faciliteront sa naturalisation. Le 17 février 1921, il devient officiellement citoyen français sous le nom de Bernard Nathan. Plus que jamais, note Dominique Missica, Nathan affiche un patriotisme exalté. La patrie lui a été reconnaissante, il la servira en faisant rayonner le cinéma français partout dans le monde. Autant vous dire qu'il s'y emploie d'arrache-pied à faire rayonner le cinéma français. En 1924, Rapid Film s'ouvre à de nouveaux investisseurs, ce qui permet de développer les installations de la rue Francoeur, à Montmartre, où il s'est installé depuis peu dans d'immenses locaux qu'il aménage pour que les cinéastes puissent tourner, tirer et monter les images. C'est le début d'une nouvelle société, les productions Nathan. Les premiers films s'intitulent « La Châtelaine du Liban », Mon cœur au ralenti ou La Madone des Sleeping. À côté de ses productions, qu'on n'appelle pas encore films de fiction, il envoie des caméras tourner nombre d'événements sportifs. Les exploits de la championne de tennis Suzanne Lenglen, le match de boxe entre Georges Carpentier, champion du monde Émile Lourd, et Batling Siki, un jeune Sénégalais qui, à la surprise générale, met Carpentier KO. En 1924, la société de Nathan décroche une médaille d'or. elle se voit confier en effet l'exclusivité des prises de vue des Jeux Olympiques de Paris. Bref, les affaires tournent à plat. En janvier 1927, il inaugure en grande pompe les studios de la rue Francoeur. Le beau monde s'y presse. Il y a là des politiques, des gens de cinéma, français et étrangers, dont le neveu de Charles Pathé, ainsi qu'un représentant de la Gaumont. Des réalisateurs, bien sûr. Et alors, faisant battre tous les cœurs, la comédienne Edna Purviance, inoubliable partenaire de Charlie Chaplin et héroïne du film à grand spectacle, Éducation de Prince, produit par Nathan, alors en cours de fabrication. Les invités éblouis assistent d'ailleurs, ce soir-là, au tournage d'une scène. Mais ce n'est pas tout. Nathan veut vraiment l'en remettre plein la vue. Alors ils sont conviés à se voir. Oui, le film a été développé dans le laboratoire installé dans le studio. Et voilà le long métrage projeté devant ce public ébahi, pouffant comme des collégiens se reconnaissant sur l'écran. Bernard Nathan est applaudi, célébré. Il est ce soir-là le roi de Paris. Porté par la vague du succès, il enchaîne les productions sans mégoter sur les budgets. Parce qu'il veut du grand, du beau, du marquant. C'est lui qui décide de tourner une vie de Jeanne d'Arc, façon tout à la fois de séduire un large public avec une héroïne présente dans tous les livres d'histoire et de rendre hommage à la France qui l'accueille. Philippe Durand relate ainsi le tournage.
Les prises de vue démarrent en janvier 1928. Bernard Nathan a promis de mettre le paquet, il tient sa promesse. Son carnet de chèques passe en mode surchauffe. Le tournage s'extériorise. La cathédrale de Reims, le château de Pierrefonds, la basilique de Vézelay, ainsi que Carcassonne, Aigues-Mortes, Mazanet et le Mont-Saint-Michel. Un véritable voyage dans les endroits de France les plus médiévaux. Les intérieurs sont bien entendu filmés dans le studio Nathan de la rue Francoeur. La scène du bûcher, qui sans surprise clôt le film, y est tournée. Une grande scène de combat, celle de la prise des tours, mobilise 3000 figurants. Le cinéma hollywoodien n'a plus qu'à bien se tenir.
Les productions Nathan ont le vent en poupe en effet. Leur fondateur est célébré par la presse spécialisée, salué par l'intégration verticale qu'il propose, autrement dit fourniture de la pellicule, studio de tournage, technicien employé à l'année, développement des bobines, tirage et titrage. Persuadé de sa bonne fortune et désireux de faire grandir encore sa société, Bernard Nathan grimpe en 1929 une nouvelle marche, il rachète Pathé. Oui, lui, le petit juif roumain, le voilà à la tête d'un empire. C'est aussi cette année-là qu'il devient l'heureux papa de jumelles, Betty et Marie-Louise. Il se sent invincible.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, dès qu'ils s'entretuent, chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Guillotine, grand air du trouvé. Et tout le public, en frémissant, se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Sur l'écran et dans la salle obscurément, les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 belle,
la voilà. Et dans la salle, plus d'un gardant, la voiture où elle se croit en sûreté vient s'écraser par terre avec un essieu cassé.
Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 Cufa. Oh. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça.
Elle adore aller le mercredi dans les cinémas.
Car
je la prends doucement.
Ouvre mon bras,
le fauteuil
où elle se croit en sûreté
ne m'empêche pas ma foi
d'arriver à l'embrasser.
J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Bernard Nathan, un géant du cinéma effacé de l'image.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
En 1929, la firme Pathé n'est plus que l'ombre d'elle-même. Charles Pathé, vieillissant, n'a pas l'énergie de se mettre au parlant, dans lequel les États-Unis, eux, se sont lancés dès 1927. Non, il pense que la bataille est d'ores et déjà perdue face aux majors de Hollywood, la Warner, Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, ces mastodontes qui inondent l'hexagone de leur production. Alors il a vendu des succursales, ne produit quasiment plus rien. Reste la distribution de films, les salles, ainsi que Pathé Baby et Pathé Rural, deux sociétés qui commercialisent l'une un projecteur familial, le home cinéma avant la lettre, en quelque sorte, l'autre un projecteur un peu plus grand, destiné aux petites villes ou aux campagnes qui ne disposent pas de salles de cinéma. L'un et l'autre accompagnés, bien sûr, d'un catalogue de films produits par Pathé. Face à l'offre qui lui est faite, Charles Pathé rechigne un peu. Fait semblant de ne pas connaître Nathan, pense qu'il est peut-être l'homme de paille d'une société étrangère qui veut faire main basse sur sa maison. Mais il finit par se laisser convaincre. Nathan a les fonds nécessaires pour acheter Pathé au prix fort. Le 26 février 1929, il est nommé administrateur délégué de Pathé Cinéma, c'est-à-dire PDG, rien de moins. En guise d'accueil, le conseil d'administration déclare « Monsieur Nathan a toutes les aptitudes et les connaissances pour succéder à Monsieur Pathé. L'essor qu'il s'est donné à la société Rapid Film nous permet de croire que nous avons trouvé en lui un pilote digne de la haute fonction qu'il va assumer. » Pathé devient alors Pathé Nathan, englobant Nathan Productions, dont le siège est installé rue Francoeur. Dans le film Nathan, le fantôme de la rue Francoeur, de Francis Gendron, Jacques Choucroun, historien de l'économie du cinéma, détaille les ambitions du nouveau patron.
Quelqu'un qui a une idée très précise de ce doit devenir la maison Pathé. Il a compris, c'est un courant dominant, qu'il fallait associer production de films, distribution et salle. C'est un redémarrage de Pathé avec un ensemble cohérent pour placer la maison Pathé au premier plan et faire de Pathé Cinéma la principale firme cinématographique des années 30, ce qu'elle a été.
De fait, Nathan et son inépuisable énergie ressuscitent Pathé. Alors que Charles Pathé, Louis Gaumont, les Frères Lumière et Georges Méliès renoncent à s'opposer à la concurrence américaine, lui relève le défi. Oui, le cinéma parlant, il veut que la France en soit. Et il ne perd pas de temps. Philippe Durand le raconte ainsi dans sa biographie de Nathan.
Il a surtout été le producteur du premier film parlant français. Et il l'a fait à une vitesse faramineuse. Il a été en Angleterre parce qu'on ne trouvait pas de studio d'enregistrement en France et pour cause. Il a dépêché une équipe en Angleterre parce qu'il y avait un studio là-bas. Il a tourné le film là-bas. Il l'a ramené en France. C'était un culot monstrueux. C'était un pari audacieux. Et il l'a gagné. Le premier film français parlant, c'est du Bernard Nathan.
Ce film s'intitule Les Trois Masques. Il sort sur les écrans français le 1er novembre 1929. Dans la foulée, Pathé Nathan crée dans ses établissements de Joinville un studio permettant d'enregistrer des films parlants. La première production réalisée en France s'appelle Chiquet, qui sortira l'année suivante. À côté de ces titres tombés dans l'oubli, faut bien le dire, Bernard Nathan continue à multiplier les productions dont quelques-unes, en revanche, restent célèbres jusqu'à ce jour. Il propose au cinéaste Raymond Bernard d'adapter Les Croix de Bois, d'après le roman de Roland d'Orgelès, une œuvre qui met en scène la guerre 14-18 et la vie dans les tranchées. En voici un bref extrait.
Tu le rates, t'as quoi, ce sera peut-être du bon, ce sera peut-être du bois. Oui, tu le rates, t'as quoi, oui, tu le rates, t'as quoi, si c'est pas la croix de guerre, c'est que ça sera la croix de bois. Oui,
et t'as rien de plus gai à nous chanter.
Tais-toi, Enesel. C'est moi qui fais la musique puis les paroles, c'est pour leur chanter en permission.
Et qui veut du Christ?
Tu veux te le carrer dans le train, ton Christ?
Si c'est pas la croix de guerre, c'est que ça sera la croix de bois.
Le film est un immense succès. Nathan, qui a un sens aiguisé de la communication, organise pour la sortie de grandes manifestations d'anciens combattants en faveur de la paix. D'ailleurs, tous les acteurs du film ont fait la Grande Guerre. Suit l'adaptation Les Misérables, également confiée à Raymond Bernard. L'épais roman de Victor Hugo est découpé en 3 films qui sortent en même temps dans les salles. Et ici encore, le triomphe est au rendez-vous. Les salles se multiplient également. Bernard Nathan les veut magnifiques, susceptibles d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Il supervise lui-même les travaux, témoin cet extrait de film d'actualité de l'époque. La scène se passe à Lyon, où Pathé Nathan fait construire une salle somptueuse. On y entend successivement un journaliste et Nathan lui-même.
Lyon ne possède pas encore une salle digne de l'estime qu'il porte à l'art du cinéma. C'est une injustice que les établissements Pathé Nathan ont voulu réparer. Grâce à la collaboration d'artistes connus, une salle de 2000 places et d'un style absolument original va être édifiée. Les travaux sont poursuivis activement sous la direction de M. Nathan lui-même.
Nous sommes un peu en retard, mais je crois qu'il faut encore mieux regarder les plans très souvent que de se tromper. Il s'agit de faire pour Lyon une des salles les plus coquettes de France. Voilà ce que nous vous demandons, M. l'architecte, avant tout. Nous avons confiance dans votre science et dans votre goût, mais nous voulons absolument que ce soit la plus belle salle.
Entre 1929 et 1935, la firme Pathé Nathan produit plus de 70 films de fiction. Elle est alors la seule à pouvoir rivaliser avec les majors américaines. Et elle fonctionne d'ailleurs comme une major, totalement intégrée. Production, tournage, montage, diffusion. S'il est un trait qui caractérise Bernard Nathan, c'est celui de ne jamais se reposer sur ses lauriers, donnant l'impression de cogiter en permanence. Comment faire plus? Comment faire mieux? Il fourmille d'idées. Et il met des acteurs sous contrat pour plusieurs films, notamment Charles Vanel et Gaby Morlaix, deux comédiens que tout le monde s'arrache. Il importe Mickey en France, il lance la production de films destinés à l'enseignement public. Et puis on l'a dit, il est le roi de la communication. Chaque film mis en exploitation est accompagné d'un programme de lancement. Un événement en rapport avec le thème du film, des encarts publicitaires, des dossiers de presse que les journalistes n'ont plus qu'à recopier. Il passe des accords avec des journaux de cinéma, Cinémonde notamment, qui publie régulièrement à la une ou en dernière page la photo d'une vedette. Furieusement moderne, Nathan négocie l'achat d'encarts publicitaires à l'année en échange d'articles ou de reportages sur ses productions. Jusque-là, tout va bien, très bien même. Mais les nuages s'accumulent au-dessus de la tête de Nathan, qui fait semblant de ne pas les voir. Trop occupé à développer son affaire, à cultiver sa passion. Sa rapide ascension suscite de la jalousie, renforcée par le fait qu'il est d'origine étrangère et juif. Dès 1931, un premier coup de semonce vient de Charles Pathé lui-même. 3 jours avant l'Assemblée Générale de la Société, il écrit ceci à Bernard Nathan.
« Je ne peux croire que vous ne vous rendiez compte des conséquences de ce vertige d'achat qui vous a fait dépenser en pure perte près d'un demi-milliard de francs, dont la rentabilité est nulle. Pour ma part, j'impute à votre mégalomanie cette affreuse situation et je viens vous dire, n'allez pas à cette assemblée faire des déclarations optimistes que les événements très prochains vont cruellement démentir. Donnez votre démission avant, c'est un geste nécessaire à mon sens. »
La situation dramatique à laquelle Pathé fait allusion est largement imaginaire. Certes, les affaires vont moins bien. La France est touchée par la dépression dans la foulée du krach de 29, mais Pathé Nathan résiste mieux que d'autres. Mais le PDG continue à tailler sa route, à investir. Certains diraient qu'il persiste dans une fuite en avant. Il effectue un voyage d'études aux États-Unis, ouvre un bureau du film français sur la 5e avenue, à New York. Mais la presse financière entame une campagne de déstabilisation. Pathé Nathan au bord de l'abîme, le krach est imminent, peut-on lire dans ses colonnes. En 1934, le journal La Cinématographie Française lui consacre un numéro spécial. On peut y lire, notamment, que M. Nathan est l'homme le plus clairvoyant et le plus tenace de notre industrie, mais aussi l'homme le plus critiqué, le plus calomnié, le plus attaqué du cinéma français. En France, la situation politique se tend. L'affaire Stavisky, du nom de cet escroc dont la chute met en lumière la corruption de plusieurs responsables politiques et magistrats, excite les ligues d'extrême droite. l'arrivée de nombreux réfugiés juifs ayant fui l'Allemagne d'Hitler attise les sentiments antisémites. Nombre d'entre eux, justement, travaillent dans le cinéma, suscitant colère et manifestations contre les films et les techniciens étrangers. Dans les cortèges, on voit des banderoles clamant « Le cinéma français aux Français ». Bernard Nathan devient une cible idéale. Une grande partie de la presse qui le portait hier au pinacle feint de s'interroger sur ses succès. L'un des administrateurs de Pathé Nathan clame dans tout Paris que Pathé va mal, que Pathé se meurt, affolant les petits porteurs. On veut la peau de Nathan, mais il résiste. Lors de l'Assemblée Générale du 29 mars 1935, il fait face, défend son bilan, et il est reconduit à la présidence de Pathé pour un nouveau mandat de 6 ans. Cela dit, ses ennemis ne désarment pas, comme l'atteste cet extrait du livre « L'affaire Bernard Nathan ».
Après Stavisky, la presse a trouvé une nouvelle affaire à se mettre sous la dent. Le plus hostile des polémistes de cette campagne de dénigrement est Léon Belby qui, dans « Le Jour », insulte le juif escroc Tannenzaf à longueur de colonne. Pour doper les ventes de son journal, il relaie des informations sans les vérifier, accusant Nathan d'avoir dilapidé la modique somme de 700 millions de francs, d'avoir monté des combinaisons douteuses avec des sociétés fictives, d'avoir imaginé d'extraordinaires jongleries financières qui auraient fini par vider les caisses.
Voilà, la réputation de Nathan escroc est faite. Bien que totalement fantaisiste, elle lui collera à la peau pendant de très longues années. Et les chiens se déchaînent. Abreuvé de fausses informations reprises par la presse, le tribunal de commerce s'en mêle et met Pathé Cinéma en faillite. Nous sommes alors en février 1936. L'historien du cinéma, Philippe Durand, résume ici la situation.
En fait, la faillite de Pathé Nathan est prononcée aux dépens de Bernard Nathan. Le conseil d'administration change de visage, change son fusil d'épaule et se dit on ne veut plus de Bernard Nathan, on est sûr qu'il a magouillé, on est sûr qu'il est, c'est pas un bon gestionnaire. Derrière, il y a des gens qui espèrent récupérer Pathé à bas prix, et notamment les banques, et notamment Charles Pathé, qui espère tout récupérer en disant bon, il a bien fait, il a bien bossé, maintenant il s'en va, on va prendre la place. Donc on limoge carrément Bernard Nathan et on déclare la faillite. Mais il n'y a aucune raison d'une part, c'est-à-dire financière et même artistique, de virer Bernard Nathan, parce qu'il a fait ses preuves. Alors c'est vrai que Pathé va mal, mais tout le cinéma français va mal. Et il n'y a aucune raison de mettre en liquidation judiciaire Pathé, parce qu'il y a encore de l'argent, il suffit simplement de revoir les comptes et de faire confiance, ne serait-ce qu'à l'avenir, au proche avenir. Donc c'est vraiment, un assassinat financier.
Le juge d'instruction Ledoux, chargé du dossier de la faillite, épluche très soigneusement les documents et tombe sur une irrégularité commise par Nathan. Un tour de passe-passe financier avec une société fictive pour pallier momentanément un défaut de banque. Mais l'occasion est trop belle. Le 20 décembre 1938, il est arrêté et immédiatement incarcéré à la prison de la Santé. Là-dessus, la presse exhume avec délectation cette vieille histoire de la condamnation de Nathan pour la diffusion de films coquins. Mais ni la vérité, ni la mesure ne sont de mise, Nathan devient un pornographe. On affirme même qu'il jouait lui-même dans les films. Son procès, en mai 1939, s'ouvre dans une ambiance détestable. L'audience est filmée, on sait déjà qu'on tient un coupable.
Paris. Les actualités mondiales ont pu filmer quelques vues du retentissant procès du juif Tannenzapf, dit Bernard Nathan. Notre présence indiscrète gêne l'inculpé qui préférerait, on le conçoit, plus de discrétion. On sait que Bernard Nathan a ruiné par ses retentissantes escroqueries plusieurs milliers de petits épargnants français.
Dans l'ambiance antisémite de l'époque, chauffée par les mouvements fascistes que sont l'Action française de Charles Maurras, le Parti populaire français de Jacques Doriot, agonie par les articles incendiaires de Lucien Rebatté dans l'hebdomadaire « Je suis partout », la comparution en justice de Nathan est de pure forme. Il partage sur ce point avec Léon Blum le titre de juif le plus haï de France. Les témoignages en sa faveur, celui de Roland Dorgelès notamment, qui salue la façon dont Nathan a œuvré pour le cinéma, n'y font rien. Il est condamné à 4 années de prison qu'il purge à Fresnes. Arrive la guerre, la seconde, la défaite des armées françaises, l'occupation. En matière d'antisémitisme, la France en remonte presque aux nazis, avec l'exposition « Le Juif et la France » organisée au Palais Berlitz à Paris en 1941. Extrait des actualités de l'époque.
«
Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée.
Sur le panneau consacré au cinéma, Nathan tient, si l'on peut dire, la place d'honneur. Son visage s'affiche en grand au milieu d'autres personnalités qui n'ont que le tort d'être juifs. Marcel et ses avocats font ce qu'ils peuvent pour le faire sortir, mais rien n'y fait. Aucune lueur d'espoir à l'horizon. Pire, le 11 mars 1942, un décret du Conseil d'État déchoit Nathan de sa nationalité française. En septembre 1942, il n'est libéré de prison que pour être embarqué à Drancy avec l'ensemble des juifs roumains raflés ce jour-là. Il fait partie du convoi numéro 37, qui, le 25 septembre 1942, s'ébranle vers Auschwitz. Il ne reviendra pas. Bernard Nathan est mort, mais l'après-guerre ne le réhabilite pas pour autant. Pendant des années, sa légende noire persiste, reprise par les uns et les autres sans vérification. Et il continue d'apparaître comme un escroc, un pornographe. Témoin cet extrait de 1978, c'est Philippe Esnault, un critique de cinéma écouté, qui relaie de bonne foi ce que l'on sait sur Nathan.
L'image qu'on garde de Nathan, c'est donc un petit arriviste qui sort du cinéma pornographique, qui met la main sur le plus gros trust français profitant du déclin de Charles Pathé. Il s'installe au début du parlant avec des combines assez douteuses.
Pire encore, en 1993, un universitaire américain de l'Ohio, le docteur Joseph Slade, publie un long article titré « Bernard Nathan, le légendaire pornographe de la France ». Un papier bourré de contre-vérités. Il affirme entre autres que Nathan a sans doute fabriqué le matériel cinématographique hardcore le plus important de l'histoire du muet. Interrogé par David Cairns et Paul Duhan, les réalisateurs du film Nathan, l'histoire effacée d'un génie du cinéma, il livre des explications peu convaincantes.
Pratiquement tout ce que je sais de ces films grivois, ce sont des rumeurs, parce qu'il y a très peu de documents. Vous trouvez quand même des traces d'une arrestation et d'une condamnation de cette personne pour avoir fait des films grivois. Est-il possible que Nathan n'ait jamais fait de film porno après son arrestation de 1911 ? L'histoire montre que ceux qui font des films porno en font souvent d'autres, même s'ils sont punis. Est-il possible qu'il n'en ait pas fait d'autres ? Oui, c'est possible.
Il faut attendre la fin du XXe siècle et la détermination de ses descendants à rétablir sa mémoire et son honneur pour que les historiens revisitent l'histoire et remettent Bernard Nathan à la place qui lui revient dans l'histoire du cinéma français, une place d'honneur. Parce que sans lui, sans sa détermination à affronter les majors américaines sur les terrains du film parlant, le cinéma français ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui. Les élèves de la FEMIS, la principale école de cinéma française, étudient dans des locaux installés dans les anciens studios de Pathé Nathan, rue Francoeur. Quel signe et quel symbole.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Bernard Nathan, une vie, une œuvre. C'est le moins qu'on puisse dire. Dominique Missica, bonjour. Vous êtes historienne et éditrice et vous avez récemment publié chez De Noël l'affaire Bernard Nathan, oui, sous-titré « Les années sombres du cinéma français ». Et vous, Lénique Le Guyabert, vous êtes l'une des petites filles de Bernard Nathan. Et avec votre sœur, vous vous battez depuis des années pour rendre à votre grand-père ce qui lui est dû dans l'histoire et les succès du cinéma français. Et puis surtout pour effacer cette légende noire qui a injustement sali sa mémoire pendant de trop longues années. Bonjour mesdames, merci d'être ici dans ce studio d'Affaires Sensibles. Quand et comment avez-vous entrepris, Dominique Missica, ce travail ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en particulier ?
Oui. Lequel ? Oui, c'est à cause ou grâce, je ne sais pas, à Lénique et sa sœur Françoise qui m'ont raconté leur combat pour réhabiliter leur grand-père. J'étais très sensible, comme les filles de Jean Zé, ou comme à cette histoire d'un homme qui a été assassiné et jeté à terre, lynché, et qui a été un génie du cinéma. Elles m'ont raconté leur combat depuis les années 94-95, cette fameuse exposition Pathé, où elles se rendent pour célébrer le centenaire de la firme Pathé, et où leur grand-père tient, dans une toute petite vitrine, elles trouvent quand même quelques éléments concernant leur grand-père. Et de ce jour-là, elles se mettent à combattre cette légende noire, comme vous l'avez si bien dit. J'étais très sensible, ça m'a vraiment touchée. Et quand elles m'ont dit qu'elles avaient des archives, qu'elles avaient des photos, des lettres, ben mon réflexe d'historienne, je me suis dit, c'est pour moi.
Et oui, et puis à la source en plus.
Ah ben j'avais la source, j'avais à la fois des archives inédites, la mémoire familiale, parce qu'il y a aussi, au-delà de l'histoire de Bernard Nathan, l'histoire d'un silence, l'histoire d'un combat, l'histoire d'un... Oui, d'une réhabilitation, d'une restitution de ce qui a été le destin et le rôle de Bernard Nathan. Et ça, c'est vrai que c'était incroyablement un trésor. J'avais sous les yeux un trésor et j'espère que je l'ai fait briller de mille feux.
Lénique Le Guyader, vous êtes donc la petite fille de Bernard Nathan et votre mère était l'une des deux filles donc de Bernard Nathan, l'une des jumelles, née en 1929. Comment parlait-elle de ce père qu'elle a connu jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est ça?
Oui, les jumelles sont nées en 29 et elles n'ont pas vu leur père à partir de 1939, enfin fin 38. Donc elles ne l'ont jamais revu. Comment en parlait-elle? Uniquement en nous disant que c'était un homme merveilleux, que c'était un papa d'une tendresse extraordinaire, qu'il leur a écrit des lettres que nous avons et sur lesquelles Dominique, entre autres, a pu travailler. Voilà, c'était surtout quelqu'un autour duquel il ne fallait pas écouter ce qui était dit. Il fallait pas aller dans les archives, il fallait pas chercher, il fallait pas ouvrir une encyclopédie. Il fallait pas regarder parce que tout ce qu'on disait était faux. En fait, c'est la génération qui a souffert. Ma grand-mère, que j'ai un petit peu connue, mais enfin, j'avais 4 ans quand elle est morte, donc non, pas beaucoup. Nos mères, je parle de maman et de sa jumelle, nous interdisaient en quelque sorte de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que finalement, jusqu'aux années 90, on n'a pas touché à grand-chose. L'interdit fonctionnait encore, on est des générations qui obéissions. Et puis à partir de 90, enfin justement, ce dont parlait Dominique à l'instant, l'exposition au Pathé, là franchement, quand on a vu dans une toute petite vitrine des affaires personnelles de Bernard Nathan, sa carte d'identité entre autres, et puis une petite photo étrange d'ailleurs d'un bal masqué chez les Nathan, on s'est dit quand même, bon, on était très bien reçus après chez Pathé, on nous a restitué tout ce qui nous revenait, on s'est dit là il faut qu'on enclenche quelque chose, et nous avons fait des rencontres merveilleuses. J'entends par là, chez Pathé, un très bon accueil. Enfin, il fallait beaucoup de temps pour aller dans les archives qui n'étaient pas numérisées. Une très belle rencontre avec Serge Klarsfeld, avec des historiens, et puis, bien entendu, avec des cinéastes qui nous ont aidés. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez travaillé, parce que pour être aussi bien documenté dans votre émission, je vois que, franchement, il manque pas beaucoup de sources. Et puis, la dernière rencontre, Dominique, c'est fabuleux, puisque c'est par son mari que je connais Dominique. J'ai connu son mari, on avait 15 ans, en Angleterre. Voilà. Et le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés lors d'une projection concernant Bernard Nathan, d'ailleurs, à l'ambassade de Roumanie, un des documentaires. Donc, 30 ans de travail, à chaque fois des petites pierres. Et aujourd'hui, c'est une petite pierre de plus, et je vous en remercie. Au nom de nous tous.
Et vous avez entendu sa voix, on l'a entendu pendant
bien
le
sûr,
qu'est-ce que ça vous procure?
C'est très émouvant, c'est très émouvant.
Et vous dites que vous avez entendu des archives que vous ne connaissiez pas?
Oui.
Là, dans cette émission?
En l'occurrence, ce témoignage de M. Esnault, que je n'avais jamais...
Du journaliste,
je n'avais jamais entendu. Et c'est quand même un bel échantillon de cette
détestation,
de cette haine qui passe les années d'historiens en pseudo-historiens, en pseudo-journalistes, en pseudo, je ne sais pas trop comment ne pas être désagréable, de gens qui sont foncièrement mal intentionnés et qui ne cherchent même pas à connaître la véritable histoire de Bernard Nathan. C'est cette omerta, ce silence, cette manière d'avoir jeté aux oubliettes un homme qui a tant fait, qui a tant aimé la France, qui a tant aimé le cinéma, qui s'est battu, qui est, comme vous l'avez dit, qui a été un ancien combattant de la Grande Guerre, qui a fait rayonner le cinéma français dans le monde entier, mais quelle injustice! Et personne n'est là, s'il n'y avait pas eu le rôle des petites filles, pour dire, mais attention, vous racontez des horreurs, et c'est bien sûr que les filles de Bernard Nathan, qu'est-ce qu'elles pouvaient dire? Il n'y a rien, vous ouvrez n'importe quelle histoire du cinéma, mais n'importe quelle histoire du cinéma, jusque récemment, il y a même un romancier encore récemment qui a osé mettre en scène Bernard Nathan dans un roman qui non seulement le met comme un producteur de cinéma de films porno, jouant dans une scène et égorgeant une actrice qui se sent totalement capable de faire ce qu'il a envie de faire. J'ai trouvé ça scandaleux. C'est de l'ordre, mais réellement, enfin, moi, ça m'indigne, ça me met en colère, parce que si cet homme, évidemment, n'a pas été un saint, bien sûr que ça...
Qu'il est.
Enfin, je veux dire, alors franchement, mais personne ne mérite d'être calomnié, lynché, oublié, diffamé, parce que c'est diffamé, dire qu'il a été... qu'un professeur de l'Ohio ose dire qu'il a vu un film... où cela pourrait être Bernard Nathan, mais enfin, c'est quand même une honte. Et c'est vrai que ça m'a toujours indignée, je reconnais, et j'ai voulu aller à la source, aux archives, et montrer qu'il suffit de lire les documents, de savoir les lire, les regarder, et ça suffit à réhabiliter Bernard Nathan.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Lénique Louis-Adère, je rappelle que vous êtes la petite fille de Bernard Nathan. Revenons un moment sur sa personnalité. Il était un bon père, si l'on en croit les témoignages de ses deux filles. Il est aussi présenté comme un bon patron. Vous avez des exemples de ça? C'était un patron social? Qu'est-ce qu'on disait de lui
priori,
en tant que...
On a trouvé dans les archives pas mal de choses, disant qu'il y avait une crèche, effectivement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites pour les femmes, pour qu'elles soient, effectivement, enfin, leur rendre la vie plus facile. Donc, il était un peu d'avant-garde à ce sujet. Au-delà de cela, il organisait des jeux. Alors, j'appellerai pas ça les Jeux Olympiques, faut pas exagérer, mais il y avait quand même des Olympiades chez Pathé. On a des films, d'ailleurs, qui sont aux archives.
L'élection de Miss Nathan.
L'élection de Miss Nathan, oui.
Il y a un côté Michelin, il y a un côté entreprise paternaliste.
Il y avait un côté extrêmement paternaliste. Tout à fait. Et puis je pense que le fait aussi, je crois que c'est important, d'embaucher des acteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène pour 2 à 3 ans, et puis de les louer après. Alors c'est peut-être aussi, il y a le côté mercantile, mais c'est aussi les fidéliser, c'est aussi pouvoir travailler avec eux dans la durée. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et tout cet aspect-là avait complètement disparu. Effectivement, on a parlé pendant des années que du juif escroc. Je peux vous dire que rétablir la vérité pour des petits-enfants qui ne connaissent pas ce monde, nous, c'est pas notre métier du tout. Alors, fort heureusement, on a poussé des portes et on a été relativement bien reçus, mais c'est quand même 30 ans pour en arriver à des écrits comme celui de Dominique qui résume très bien tout le travail qui a pu être fait et qu'elle a largement enrichi.
Et concernant ces adhésions politiques, qu'est-ce qu'on sait?
Les adhésions de Bernard Nathan?
Un homme de gauche SFIO, non?
J'en sais rien.
Dominique Missica,
je crois qu'il n'a pas d'engagement politique. Il a un engagement vis-à-vis de la France. C'est un patriote. Je crois que ce qu'il résume
le mieux...
c'est
une dimension très importante, absolument.
C'est une dimension, parce que c'est un mot aujourd'hui assez désuet, donc on n'y pense pas. C'est un patriote. Il aime la France, il est venu au pays des droits de l'homme, il a été merveilleusement accueilli. La France lui a donné sa chance. Il l'a servi en s'engageant dans la Légion étrangère et en combattant sous le drapeau français. Il est d'ailleurs même en instance d'avoir la Légion d'honneur. Donc, c'est pour ça que la déchéance prononcée par Vichy en mars 42 de sa nationalité française est une cruauté.
Bien sûr.
C'est quelque chose de cruel.
Il est de ces juifs de la diaspora qui veulent s'intégrer, absolument s'intégrer. voilà, qui se sentent français, qui sont naturalisés, qui se sentent français à 100%.
Français, d'ailleurs, le fait de s'appeler Bernard Nathan et d'en avoir eu l'autorisation du gouvernement en 1931, il a le droit de s'appeler Bernard Nathan. Et on voit bien la haine dont il est l'objet à partir du moment où on sort le fait, comme pour Léon Blum d'ailleurs. Alors Léon Blum, c'était faux, mais on dit il s'appelait en fait Naoum Tanenzaf. Et l'appeler le juif Tanenzaf, au lieu de l'appeler Bernard Nathan, c'est déjà le stigmatiser.
On a entendu les actualités disant le procès du juif Nathan, non pas de Bernard Nathan, de monsieur Nathan en tant que tel, mais du juif Bernard
Voilà,
Nathan.
À partir d'ailleurs, quand la première question du président, il lui dira monsieur Naoum Tanenzaf, il lui dit non, je m'appelle Bernard Nathan.
Oui.
C'est autant de signes de cet acharnement judiciaire dont il a été vraiment la victime. Mais alors, à un point, le terme de bouc émissaire n'est pas suffisant, peut-être.
Et victime à titre posthume aussi, si l'on prend les procès de 44 et 49, Lénique Le Guyader.
Oui, alors les procès de 44 et 49, c'est quand même extraordinaire, surtout que la convocation pour le je crois que c'est pour le procès de 44, la convocation arrive rue Caulaincourt, un immeuble qui a été vendu comme bien juif, en 1942, c'est-à-dire au moment où Nathan est envoyé à Auschwitz, au moment où il va bien entendu y mourir au bout de quelques semaines, quelques mois, nous n'avons pas la date exacte, il reçoit cette convocation et il est condamné. Il est condamné parce qu'il n'est pas présent, enfin aussi parce qu'il n'est pas présent. Je veux dire, c'est absolument ahurissant. On a quand même peu d'exemples d'un tel acharnement.
Acharnement, c'est ça, c'est vraiment.
Et un acharnement qui l'a poursuivi finalement jusqu'à, je dirais presque jusqu'à nos jours. Là, il ne faut pas exagérer. Heureusement, notre travail commence à porter. Le travail avec tous les historiens comme Dominique qui ont bien voulu se joindre à nous. Mais autrement, c'est vrai que l'escroc juif pornographe s'est accolé à son nom. Wikipédia, ça a été très compliqué à modifier.
Dites-nous ça, c'est incroyable.
Très, très compliqué.
Déjà, techniquement, c'est toujours très compliqué.
Il a fallu des années. Mettre une plaque à la FEMIS, puisque c'est quand même Bernard Nathan qui a créé ce lieu, qui en a fait les studios Pathé, et qui en a fait aussi ensuite ce qui est devenu l'école de cinéma. Ça a été très compliqué, parce que la plaque était un petit peu polémique, etc. C'est plus difficile qu'on ne croit.
Mesdames, c'est fini, il me reste à vous remercier.
C'est nous
merci
qui vous remercions.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Bernard Nathan, géant du cinéma effacé de l'image. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.